Voilà quelques soucis techniques, mais on est là. Donc vous écoutez Les Promesses de l'Aube et je suis avec Peter Vanek, cinéaste belge et activiste climatique. Bonjour Peter, merci d'être venu dans les studios de Radio Panique. Malgré une actualité trépidante, vous étiez encore ce week-end en Suisse pour présenter un documentaire qui n'est pas celui dont on va parler principalement. Et donc, vous avez de manière quasi simultanée sorti votre deuxième documentaire, Holding Up the Sky, dont on va parler et qui est consacré aux Yanomami en Amazonie brésilienne. Et notamment leur leader David Kopenawa, mais vous avez sorti aussi un autre documentaire qui montre bien aussi justement votre activisme climatique et qui s'appelle Planète B et qui a suivi des jeunes activistes pour le climat et dont on parlera si il nous reste quelques minutes en fin d'émission. Mais donc ce Holding Up the Sky, il fait suite à Samuel in the Clouds que vous aviez sorti en 2016 et qui vous avez emmené dans les hauteurs des montagnes boliviennes. Ici, vous êtes dans la forêt amazonienne sur les traces donc de David Kopenawa, qui n'est pas un inconnu du grand public occidental, car il est déjà venu à de nombreuses reprises pour sensibiliser les Occidentaux à leur situation. Il a aussi fait un grand travail avec un ethnologue, Bruce Alberts. Et donc, vous avez choisi de faire ce documentaire là, maintenant, enfin, ces quatre dernières années, je pense. Qu'est-ce qui vous a amené à vous pencher principalement sur David Kopenawa et à le suivre aussi bien chez lui en Amazonie que lorsqu'il se rend dans les rencontres internationales pour défendre son peuple?
Oui, David Kopenawa est effectivement une figure très, 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 très riche. Quelqu'un qui a une parole très importante depuis plus que 40 ans. Et en fait, avant de connaître sa voix, comme j'ai vécu aussi longtemps en Amérique latine, environ 10 ans, j'avais déjà eu la possibilité de voyager en Amazonie et de rencontrer en fait les limites du territoire Yanomami. Et donc c'est un des derniers et des plus grands peuples isolés qui vivent dans la forêt amazonienne. Leur territoire est en Brésil seulement, et plus ou moins trois fois la Belgique. Donc c'est collé en bas de la frontière vénézuélienne et leur territoire en fait continue en Venezuela. En Brésil seulement ils sont 30 000 sur ce territoire de trois fois la Belgique. Donc c'est juste pour donner un peu quelques chiffres, l'ordre de la grandeur de leur pays, même s'il n'est pas délimité par des frontières nationales. Par la suite, j'ai pu lire le livre que David Kopenawa a lu. Strictement parlé, il n'est pas le chef du peuple Yanomami, c'est un porte-parole. Les Yanomami n'ont pas de chef. C'est un peuple qui vit dans ce territoire énorme, dans des petits villages de plus ou moins 150 à maximum 400 personnes. Si le village devient trop grand, il se sépare. Les villages sont souvent des voyages à pied d'une ou deux ou trois jours l'un de l'autre. Donc vous pouvez vous imaginer qu'une structure politique qui va vers un seul chef n'est pas leur structure. Donc David Kopenawa prend en fait depuis longtemps déjà cette fonction de porte-parole. Et a écrit un livre aidé par effectivement l'anthropologue Bruce Albert, qui a passé une grande partie de sa vie avec les Yanomami pour apprendre leur culture, leur langue, et que finalement a aussi gagné leur confiance. Et David Kopenawa lui a parlé de la mythologie Yanomami et aussi de comment lui, il voit le monde des Blancs. Et quand j'ai lu ce livre-là, j'étais bouleversé par la force de la parole de David Kopenawa, une force qui est alimentée par la culture Yanomami, mais aussi par son extrême intelligence, une intelligence qui analyse notre société et qui regarde aussi l'absurdité de la civilisation blanche qui colonise le monde, qui détruit le monde et qui détruit le vivant. Je suis déjà longtemps aussi activiste autour du changement climatique et j'aimerais bien éviter la destruction totale de la biodiversité et donc aussi de nos propres conditions de vie. Donc quand j'ai lu ces livres-là, je me suis dit, je vais essayer de faire un film.
Et justement, cette lecture qui peut avoir cette analyse que Kopenawa a de notre monde, vous la mettez vraiment bien en scène dans le film, où vous alternez justement entre des moments où il est chez lui, et d'ailleurs à un certain moment il dit que le seul endroit où il se sent à la maison c'est dans la forêt, et les moments où il se retrouve justement parmi les Blancs, entre guillemets, que ce soit parmi les Blancs brésiliens qui les reçoivent avec un air un peu dubitatif aussi, et donc vous montrez bien aussi le fait qu'au Brésil même, ces populations sont assez maltraitées, encore plus depuis l'arrivée de Bolsonaro, mais aussi en Europe, où on les voit se rendre à notamment... je pense que c'est en Suède, pour recevoir le prix Nobel alternatif, c'est
oui,
ça
exactement.
En 2019, ou en France, où il dit, tout cet or de ces palais, c'est l'or qu'on a, c'est notre sang, en fait. Et donc, tout ça est bien mis en avant, et aussi, il explique bien, comme vous le dites, le jour où la forêt disparaîtra, nous mourrons, et le monde entier mourra. Et donc, ce titre, Holding Up the Sky, est-ce que c'est une référence justement à cette nécessité de préserver ce monde et cette forêt
tout à fait. Enfin, en fait, pour les Yanomami, c'est une évidence. C'est quelque chose que... C'est pour ça qu'ils nous regardent avec incompréhension. Et ils ne comprennent pas l'absurdité de notre monde. Parce que dans leur mythologie... donc le titre sort en fait de leur mythologie... Selon les Yanomami, leur monde a été créé il y a très longtemps après un momentum apocalyptique où le ciel qui était instable, le premier ciel, est tombé par terre et a écrasé tout ce qui existait. Et d'ici par là, il y a quand même des Yanomami qui ont pu survivre et qui ont gratté grâce à l'aide du bec du perroquet, un petit trou, et qui sont réapparus sur le dos du ciel. Donc, et ça, c'est le monde actuel. Sur ce dos du ciel, il y a de nouveau des arbres qui ont commencé à pousser. Et voilà. Et donc, le monde actuel s'est créé sur le dos d'un ciel auparavant en haut, mais tombé. Et donc, il y a un nouveau ciel qui a été créé, mais ce nouveau ciel, vu que le premier est tombé, est également très instable. Et comme eux, ils se souviennent de la première chute, ce qu'ils font et ce que leurs chamans font, c'est garder l'équilibre en bas du ciel. Donc, en fait, dans les cérémonies Yanomami, c'est la chose centrale, c'est parler avec tout le vivant autour d'eux, avec les arbres, les rivières, les animaux, le vent, l'orage, la chaleur du soleil, pour comprendre ce qui se passe et pour garder cette biodiversité en équilibre. Et si il y a des éléments qui se déquilisent, parce que c'est un grand tout très fragile, si l'équilibre, le déséquilibre arrive, et là, il est en train d'arriver déjà un bon petit moment. Le moment arrive où leurs chamans ne pourront plus retenir le ciel. Et effectivement, c'est un message. C'est le message que David Copenhague porte depuis des années. C'est un message qui est devenu de plus en plus urgent au niveau politique avec l'arrivée de Bolsonaro, qui était vraiment un désastre pour pas seulement les Yanomami, mais même pour tous les peuples indigènes qui vivent en Brésil. On peut même parler d'une génocide, parce que c'est déjà il y a très longtemps quand les Européens sont arrivés, c'est commencé, mais avec Bolsonaro, qui regrettait d'ailleurs ouvertement que pendant la colonisation, l'armée brésilienne n'a pas pu faire ce que l'armée en États-Unis a fait, notamment vraiment éradiquer le peuple indigène. Donc il regrettait ouvertement au début de son mandat qu'il y en avait encore tellement. Voilà, donc le film parle de cette lutte de David Copenhague, de cette lutte Yanomami, avec effectivement un message que David Copenhague essaye de nous expliquer, et j'espère avec lui qu'on arrive à l'écouter.
Et justement, enfin, parce qu'il nous reste encore quelques minutes quand même. Comment s'est passé justement ce tournage? Parce que vous avez commencé le tournage, je pense, un peu après ou juste au moment où Bolsonaro est arrivé. Et puis après, il y a eu le Covid aussi. D'ailleurs, on le voit, on voit dans le film justement. C'est l'arrivée de ce virus en terre Yanomami, et comment ça a été traité, comment ils l'ont vécu aussi. Est-ce que justement le fait que l'État brésilien et Bolsonaro en particulier aient complètement nié l'importance de ce virus, est-ce que ça a eu des effets encore plus désastreux sur le peuple Yanomami
Tout à fait. En fait, donc le tournage j'ai commencé les repérages avant l'arrivée de Bolsonaro, et en fait tout le projet de tournage coût et de montage est couvert en fait par le fait que il était au pouvoir. Donc j'ai vécu toute cette période dans la construction du film, et donc c'est aussi ce que le film raconte. L'arrivée de Bolsonaro, c'est l'ouverture du film, et c'est clair que l'arrivée du Covid, c'était aussi dur pour nous de continuer à filmer. Bien sûr, on était en train de filmer, on était en forêt quand le corona est arrivé, donc on a dû retourner. Grâce à ça, c'était au tout début quand il y avait la panique mondiale et que tous les aéroports se fermaient. Donc, et puis par la suite, quand même, dès que c'était possible, on est retourné pour capter ce qui se passait. Bolsonaro, il a nié l'impact de ce virus dès le début. Et donc l'impact sur les peuples indigènes en général a été plus fort que sur les autres populations, c'est sûr, parce que c'est beaucoup plus difficile déjà d'amener les soins vers eux. Et donc quand les vieux étaient atteints du virus, le temps que ça prend avant d'arriver dans un hôpital et d'avoir des soins spécialisés, mais parfois c'est une semaine, parce qu'il faut mettre les gens dans une chaloupe, les emmener sur les rivières. Enfin, c'est voyager en Amazonie n'est pas simple. Mais pour les Yanomami, cette arrivée du virus a été juste une autre maladie dans une longue chaîne de maladies qui leur menacent, parce que ils ont moins d'immunité aux maladies que nous on apporte. Même la grippe, le malaria, ce sont des maladies avec un énorme impact sur eux. Et concrètement, c'est pas seulement le Covid qui était le facteur déclencheur du fait que pendant les années Bolsonaro, on estime 600 enfants Yanomami décédés à des maladies vraiment évitable, mais c'est le fait que le facteur déclencheur pour le fait que aujourd'hui il se trouve dans une situation d'urgence absolue au niveau sanitaire, c'est que Bolsonaro a appelé des garimpeiros, donc les chercheurs d'or, à envahir leur territoire. Et donc 20 000 garimpeiros sont arrivés, ils ont pollué les rivières, ils ont amené la maladie, donc pas seulement le Covid, mais aussi le malaria, la grippe. Ils utilisent le mercure pour prendre l'or. Ce mercure-là, on le retrouve dans des taux très hauts maintenant dans les corps des Yanomami. Il y a donc ils ont perdu aussi dans plusieurs villages qui sont proches des mines. Ils ont perdu leur capacité à vivre de la forêt. Parce que la pollution est tellement grande qu'en fait leur l'écosystème n'est plus en mesure de soutenir leur mode de vie traditionnel. En plus de ça, il y a l'alcool qui est amené. Donc en fait, ça déséquilibre complètement leur société. Et donc il y a des grandes parties du territoire Yanomami maintenant qui sont dans une détresse absolue.
Et vous disiez que vous espériez par ce film qu'on puisse entendre, réellement entendre ce que dit David Kopenawa. Est-ce que vous pensez que c'est le cas? On accorde donc ce prix Nobel alternatif il y a 4 ans maintenant, mais est-ce que ça a un impact ou est-ce que ça reste quelques personnes qui sont intéressées, qui entendent réellement le message? Est-ce que...
Oui, en fait, c'est toujours un peu dur avec un film. Moi, je veux bien sûr porter, être solidaire avec leur lutte et faire un appel ensemble avec lui et aider en fait ses paroles à lui à trouver des oreilles ici. Et en même temps, bien sûr, je veux montrer aussi comment il voit notre société blanche. Et sa réalité à lui est aussi que ça fait 40 ans qu'il nous parle et on l'écoute. Il a des gens qui l'écoutent. Il a des gens qui sont solidaires avec la lutte Yanomami. Mais en tant que société blanche, dans sa généralité, dans son ensemble, on ne peut pas nier qu'on continue avec une vitesse démesurée à détruire le vivant. Et donc, voilà, pas montrer ou ne pas raconter ce constat glaçant serait pas juste. Donc le film montre aussi effectivement le fait qu'il reçoit des prix et c'est très important et c'est fantastique que il faut continuer à être solidaire avec lui et avec la lutte Yanomami dans sa globalité, et il faut renforcer ça et espérons que on peut sauver ce qui reste de la culture Yanomami et aussi ce qui reste de la forêt amazonienne. Mais il faut aussi montrer dans le film que effectivement on est arrivé à la fin. Ça fait 20 ans qu'on dit il est midi sans, moins 5. Donc maintenant, on est midi moins quelques secondes, en fait. Il faut sauver en toute urgence la forêt amazonienne, parce que sinon, le ciel va nous tomber sur la tête. Et donc, pour se rendre compte dans quelle situation on est, dans quel rapport de force aussi on est, et il fallait montrer... dans le documentaire aussi que notre société est un peu sourde, entend les paroles de David depuis un long moment sans vraiment les prendre en compte, sans vraiment changer de cap. Et donc Il nous appelle en fait le peuple des choses. Donc pour David Copenhague, nous, on est un peuple qui va consumériste, qui mange le monde en fait. On mange le monde. Et donc ce n'est pas seulement le Bolsonaro ou les chercheurs d'or qui sont responsables pour ça, mais c'est vraiment le système occidental, donc historique blanche, qui a colonisé le monde il y a plus que 500 ans. Et cette colonisation continue de manière très violente jusqu'à aujourd'hui. Et ça s'accélère même. Parce que on pourrait dire, comme le dit très beau aussi David Van Reybrouck dans un livre qu'il a écrit, que cette colonisation qui était d'abord géographique est maintenant aussi temporelle. Ça veut dire que notre société colonise notre futur, notre avenir. Et donc, en sachant qu'il est minuit moins quelques secondes, je vous appelle enfin, je serais très content si vous alliez regarder le film en salle pour, avec moi, écouter les paroles de David Copenhague.
Et donc ce film, il est visible à partir d'aujourd'hui. Et je pense que la première, c'est au cinéma...
Cinéma Aventure.
Aventure, ouais. Et c'est à 19h30.
Non, c'est à 19h aujourd'hui. Voilà. Et puis sur le site du Cinéma Aventure, il y a toutes les projections de la semaine qui viennent qui sont annoncées. Et plus que il y aura des gens dans la salle, plus longtemps le film pourrait rester. N'attendez pas.
Voilà. Merci beaucoup, Peter, d'être venu présenter ce film. Et donc, l'autre film, Planète B, est-ce qu'il va sortir aussi?
Oui. On n'a pas encore de détails pour la Belgique, mais on espère une sortie en automne, après l'été. Mais donc là, j'étais à Vision de Réel, où le film était présenté en grand angle. Et en fait, le film traite le même sujet, mais porte l'espoir des jeunes générations d'activistes climatiques. Et j'ai suivi deux d'entre eux pendant 4 ans, et j'ai capté leur adolescence. Où leur militance politique en fait naît, voilà. Et donc c'est sur Extinction Rébellion, sur la désobéissance civile. Donc là, c'est un message d'espoir porté en fait par des nouvelles formes d'activisme ici. Voilà, c'est un film sœur de celui qui sort maintenant.
Eh bien, merci. On se réjouit en tout cas de vous recevoir pour en parler lorsqu'il sortira. Merci beaucoup. Et merci. Nous, on se quitte et on revient après les congés de printemps. Et là, la suite, c'est Radio Mukambo, tout de suite, dans 10 secondes, Radio Mukambo sur les ondes de Radio Panique. Bonne journée à toutes et à tous.